Est-ce qu'on se dirige vers des retrouvailles entre Novak Djokovic ainsi que Carlos Alcaraz en finale de l'US Open pour une revanche de la finale de Wimbledon? Ou au contraire, est-ce qu'en demi-finale, Daniil Medvedev ou Ben Shelton peuvent créer la surprise? Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, ce soir, je suis seul pour quelques minutes, sachant que l'un de nos talkers va me rejoindre. Louis, vous avez l'habitude de le connaître, là, il est dans les embouteillages. Et d'ici quelques minutes, il va arriver. Donc, on sera tous les deux pour converser un petit peu sur cette fin de d'US Open et surtout se projeter sur les différentes demi-finales, que ce soit du côté des dames ainsi que du côté des messieurs. Et nous, on se retrouve juste après le jingle. Bon, ça fait plaisir de tous vous retrouver, que ce soit Anna, Kavabert, Wejen, Ivred, Djokovic. Djokovic est avec nous ce soir. Ouais, quand j'inviterai le GOAT, ça serait bien. Djokovic, tu me dis si tu es chaud des fois pour participer sur un live, tu me contactes par mail ou sur Twitter et avec grand plaisir pour que tu puisses venir nous aiguiller par rapport à ta grande expérience et tes différents titres en Grand Chelem. Ça fait plaisir en tout cas. Une fois n'est pas coutume, mais on va commencer par parler des dames, sachant que c'est les demi-finales qui vont avoir lieu cette nuit, et ensuite on se projettera sur les demi-finales messieurs qui auront lieu demain. Donc pour une fois, on est un peu gentleman par rapport à ces belles affiches, en tout cas une belle affiche en demi-finale du côté des dames qui rêvent d'un Shelton Fittal, éventuellement d'un titre, toi aussi. On en reparlera par rapport à Ben Shelton. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais on va commencer tranquillement, le temps que tout le monde arrive, que Louis aussi arrive d'ici quelques minutes, à parler des dames avec les demi-finales qu'on va avoir, notamment la première, Gauff contre Mourova, qui je pense est une excellente affiche, la plus belle des deux demi-finales. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous dégagez une favorite parmi ces deux joueuses, avec Gauff qui a été relativement impressionnante sur cette US Open, où ça a commencé tranquillement contre Sigmund, où l'Allemande a essayé de ralentir un petit peu le rythme, mais bon, au final, l'Américaine s'impose en 3-7. Ensuite, une victoire tout en maîtrise contre Andreeva. Puis encore quelques matchs compliqués contre Mertens et Wozniacki, même si l'Américaine n'a jamais été en difficulté, qu'on se le dise. Mais c'est vrai qu'elle lâche un set. Et plus ce match, ou ce non-match d'Ostapenko en quart de finale, alors que la Lettonne avait sorti Iga Swiatek. Donc vraiment, Coco Gauff qui est sur une sacrée série, hein, parce que elle s'est imposée à Cincinnati. Donc là, depuis Wimbledon, c'est 16 victoires pour une seule défaite, deux titres, donc à Washington et Cincinnati, où en finale, elle s'était justement imposée contre Mourova. Et Mourova qui continue sur son excellente lancée avec des victoires sur Hunter, Fraîche, Tonsen. Elle perd un set contre Wang qui l'a un petit peu déstabilisé avec son coup droit. Et ensuite, une victoire plutôt simple contre Tsitsipas, même s'il y a un jeu dans le premier set là où elle va devoir sauver pas mal de balles de break et elle va faire la différence. Donc vraiment une très très belle affiche. Il y a 1-0, sachant que les deux joueurs se sont joués il y a quelques jours à Cincinnati en finale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous vois déjà très très bouillant par rapport aux messieurs. On y reviendra juste après. Mais là, on commence par les dames, les premières demi-finales qui arrivent. Et c'est vrai que pour remettre un petit peu de contexte, sachant que ça avait fait 2-0 pour Gauff en finale à Cincinnati, il faut rappeler que Mourova était sortie d'un match éreintant contre Sabalenka. Et ça avait forcément pesé sur la balance. En plus, avec les conditions très compliquées en finale à Cincinnati, cette chaleur. Elle avait vraiment souffert, la Tchèque, et je pense qu'elle n'avait pas pu délivrer son meilleur tennis et que là, elle sera beaucoup plus prête, beaucoup plus à même de jouer son meilleur tennis et de poser peut-être des problèmes à l'américaine. Je regarde un petit peu Gauff favorite, mais Mourova pour le titre, c'est mon souhait. Je te comprends, ouais. Je te comprends, Libra de Mourova aussi, j'aime beaucoup. Et comme tu dis, elle avait arrosé, mais le contexte n'était pas le même. Elle avait eu ce match compliqué contre Sabalenka. Elle était un petit peu cuite. Elle peut se servir quand même de quelques enseignements, je trouve, par rapport à ce qu'elle a montré à Cincinnati, où la mortie n'avait pas énormément fonctionné. On sait que Coco Gauff défend très très bien. Elle a l'arrière vers l'avant, elle y arrive merveilleusement bien. Et elle avait parfaitement couvert toutes les amorties. Le slice n'avait pas trop dérangé non plus l'américaine dans ce match, mais c'était un peu biaisé par rapport voilà, à cette fatigue et ce contexte climatique qui a vraiment pesé dans les jambes de la Tchèque. Coco Gauff, voilà, qui est une très très bonne défenseuse, et Mourova, qui elle a des armes offensives où je pense qu'elle peut faire mal avec son coup droit. Elle varie bien au service, mais c'est vrai qu'on sent l'américaine transcender. Elle joue chez elle, peut-être voilà, pour prendre la relève entre guillemets de Serena Williams depuis le temps qu'elle a annoncé, depuis enfin voilà, tous ces titres qu'elle a décrochés, toutes ces victoires références. Donc ça va être un très très bon test, je pense vraiment une très très belle affiche. Peut bouillir Alcaraz. Ça, on y reviendra après sur les messieurs. Mais la puissance de Goff sera difficile à contenir. Goff est plus complète, je trouve, donc à voir. C'est clair qu'elle est complète. Moi, elle a toujours cette faille côté coup droit, en fonction, voilà, si la balle est un petit peu basse, qu'elle peine un petit peu à la relever, même si l'apport de Brad Gilbert, franchement, très très solide. On sent la différence. Encore une fois, ça fait que quelques semaines qu'il est à ses côtés. Ce n'est pas miraculeux. C'est tout ce qu'elle a mis en place précédemment qui a permis justement d'arriver là où elle en est arrivée. Mais je trouve, par rapport à ces matchs qu'elle a fait contre Mertens, contre Wozniacki, sur des profils un petit peu plus de défense, où à chaque fois elle lâche un set, là on a vraiment une Mourova qui va se montrer beaucoup plus offensive, qui va passer à l'attaque, qui gère très bien cette transition arrière vers avant, défense-attaque. Je pense que si elle affiche le même niveau que contre la Danoise ou contre la Belge, ben, ça peut être compliqué pour Mourova. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Initiative en deuxième balle. Ah bah voilà, en plus, Louis arrive pile au bon moment. Il devrait arriver, il se connecte, je le vois apparaître. Donc, on va pouvoir échanger sur cette affiche. J'ai envie de croire en Mourova. On a tous envie de croire en Mourova. Je pense que c'est une joueuse où on prend beaucoup de plaisir à la voir évoluer sur un court de tennis. Elle propose énormément de choses, beaucoup de variations. Donc ça, c'est très très cool. Et Louis nous rejoint. Salut Louis.
Salut à tous. Alors, désolé pour le retard. Là,
je t'entends. Maintenant, je t'entendais pas au début, il y avait une petite latence. Comment ça va?
Bah ça va. Et toi?
Très très bien. On va parler tennis. On arrive vers la fin de l'US Open. Justement, j'étais en train de parler un petit peu du Goff Mourova. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette affiche? On sait que les deux joueurs se sont joués il y a quelques semaines à Cincinnati. Quelle est ton analyse, toi, sur ce duel?
Alors. Aussi étonnant que ça puisse paraître, cette fois-ci, j'aurais tendance à mettre un léger avantage sur Mourova, étant donné, je pense, la pression qu'il y a sur Goff. Je pense qu'elle n'a jamais autant ressenti la pression que là, l'US Open. Voilà, elle est quand même vue comme l'héritière de Serena Williams. Elle en est à 10 victoires d'affilée, ce qui lui était jamais arrivé dans sa carrière, je crois. Les attentes sur elle sont énormes. On va dire que ça peut être légèrement atténué par la présence de Shelton, sur qui on reviendra après dans le tableau masculin. Mais voilà, on sent que c'est un peu sur elle que repose le tennis américain. Donc elle peut ressentir la pression. Pour autant, voilà, je crois que je ne l'ai jamais aussi bien vu jouer. Elle est plutôt solide côté coup droit, alors qu'on sait que c'est naturellement son point faible. Pareil, ses deuxièmes balles, elle les claque plutôt pas mal, alors qu'on sait qu'elle avait un énorme axe de progrès sur ce coup-là. Donc, non, je la trouve en confiance depuis le début. Bon, OK, elle a lâché des sets par-ci, par-là. Grosse frayeur quand même au premier tour contre Sigmund, où le match dure quand même quasiment 3 heures. Donc, grosse bagarre, surtout quand on connaît les conditions de l'US, très chaudes et très humides. Voilà. Concernant Goff, je pense qu'on a à peu près tout dit. Après, sur Mourova, voilà, pas de grande surprise. C'est pas une joueuse surpuissante, mais elle est très créative. C'est vrai qu'elle crée du jeu en permanence. En fait, il n'y a jamais deux coups consécutifs qui sont identiques. Donc c'est assez impressionnant, surtout sur le tennis féminin où le jeu est assez stéréotypé. Voilà, on frappe tendu des deux côtés. Et elle apporte un peu quelque chose de nouveau. Donc c'est assez intéressant à voir et on voit que d'ailleurs ça déboussole plus d'une joueuse, donc très intéressant et voilà, véritable confrontation de style entre les deux joueuses. Je mettrai un léger avantage sur Mourova, pas en deux petits sets, mais léger avantage, ouais.
Goff a 19 ans du coup, pour te répondre Djokovic, et Livred, en effet, il y a cette petite inquiétude ou point d'interrogation physique côté Mourova avec ce bandage. Je pense qu'on a tout dit, tu as été complet sur l'analyse de ces deux joueuses. C'est vrai que c'est un match où c'est compliqué de dégager la gagnante. Je vois un match en 3-7, différent de ce qu'on a pu voir à Cincinnati. En plus, là, du coup, ça va jouer en night session. Donc là, on sait que Mourova avait souffert des conditions à la finale de Cincinnati. J'irai quand même sur Goff en 3-7, même si voilà, j'adore Mourova. Et là, c'est plus le cœur qui parle que ça serait top si elle arrivait à se qualifier pour une nouvelle finale en majeur. Mais par rapport à ce qu'a montré Goff, elle semble être dans la zone. je pense qu'elle pourrait faire déjouer Mourova en 3-7, donc un match accroché entre les deux joueuses, et je lui donne un léger avantage. Donc voilà, on a chacun notre avis. Toi, tu vois Mourova en 3-7?
Mourova en 3-7. Après, je pense qu'il y a quelques petits trucs à mettre en perspective. C'est sûr que si physiquement Mourova n'est pas présente, je pense qu'elle n'arrivera pas à créer du jeu comme elle le fait d'habitude. Parce que ça, forcément, créer du jeu, ça nécessite d'être physiquement au top. Faudra voir dans quel état elle est. Je pense que, par contre, d'un point de vue purement physique et endurant, je pense qu'elle n'a pas trop puisé parce qu'elle a perdu qu'un seul set sur tout le tournoi. Donc, je pense qu'elle est assez fraîche de ce point de vue-là. Il faudra vraiment voir l'histoire du bandage, mais voilà, si elle arrive dans de bonnes dispositions, je pense qu'elle peut jouer les troubles faits. Mais il ne faut surtout pas qu'elle joue en cadence gauf du fond du court, parce que là, je pense qu'elle va se faire, avaler, quoi.
C'est clair. Donc voilà, on est partagé. Vous êtes partagé aussi dans les commentaires. Je pense qu'on va avoir une très très belle affiche et que ça promet du beau tennis avec une belle opposition de style. Plutôt quelqu'un voilà, sur la défense, l'autre sur l'attaque, les variations. Ça va être ultra intéressant. Donc, on est partagé, on a hâte de voir ça. On vous a donné quelques clés. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de tennis stéréotypé. Bah justement, c'est un peu les deux joueuses qu'on va avoir de l'autre côté de la demi-finale. Sabalenka contre Keys, où la Biélorusse mène 2-1 contre l'Américaine, où elles se sont jouées il y a quelques temps à Wimbledon cette année. Et c'est Sabalenka qui a pris le meilleur sur Madison Keys. Madison Keys qui repointe un petit peu le bout de son nez, parce qu'elle a fait un peu par-ci par-là des bonnes performances en Grand Chelem, avec plusieurs demi-finales quand même, avec l'Open d'Australie en 2015, Roland en 2018, la finale à l'US en 2017 qui perd contre Stephens, la demi à l'US Open en 2018, la demi à l'Open d'Australie en 2022, là c'était quart à Wim, donc ça reste très solide. Son fond de jeu, on le connaît, c'est une joueuse très agressive, qui est très forte en attaque. Par contre, dès qu'il faut défendre, bah là il y a plus grand monde. Donc quand, ouais. Quand elle est dans la zone, franchement c'est très 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 solide, mais après voilà, dès qu'on va la challenger un petit peu, qu'on va lui remettre cette balle supplémentaire, elle peut arroser. Elle a un excellent revers long ligne, je trouve, et Sabalenka qui sera numéro 1 mondial après la défaite de Swiatek, qui fait une sacrée prouesse, sachant que ça faisait 7 ans qu'aucune joueuse n'avait atteint les demi-finales de chaque major. Donc ça c'est très très solide par rapport à ce qu'a fait Sabalenka cette année en termes de régularité. Donc, c'est totalement mérité, cette première place mondiale. En plus, c'est sa troisième demi de suite à l'US Open. Donc, elle est ultra agressive. Sauf que contrairement à Keys, elle est un peu meilleure quand même en défense, je trouve. Elle relance bien, donc elle va relancer un peu les services de Madison Keys. Et c'est pourquoi, moi, je vois clairement l'avantage pour Sabalenka, où ça peut être un match en 2-7 pour elle. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je te rejoins totalement. Pour appuyer ton propos, en plus, Sabalenka elle a perdu en moyenne, j'ai vu 5 jeux par match depuis le début du tournoi. C'est les stats qui rappellent Serena Williams, quoi, clairement, où elle a marché sur ses adversaires. C'est assez impressionnant. Après, c'est à mettre en perspective aussi, dans le sens où elle n'a pas joué de grosses joueuses, honnêtement, à part Kazatina, qui arrive toujours à faire sa petite cuisine, mais sinon c'est vrai qu'elle n'a pas joué de grosses têtes d'affiche et de grosses têtes de série, donc faut prendre ça en considération aussi.
T'as raison, le fait qu'elle n'ait pas perdu de set, c'est vrai que son tableau a été assez dégagé, mais tout à son honneur d'avoir taillé patronne pour arriver jusqu'en demi-finale sans perdre le moindre set et pas perdre d'énergie.
Voilà, exactement, c'est ça le truc, c'est qu'il faut savoir gérer ça, parce que justement quand on est ultra favorite comme ça, bah c'est là qu'on voit si mentalement la joueuse est très forte, et on sent que Sabalenka a clairement passé un cap depuis le début de l'année. Voilà, on sait que c'est un cap qu'elle a passé à partir de janvier quand elle gagne l'Open d'Australie. Elle a eu quelques petites fluctuations depuis, mais on sent que voilà, elle a clairement gagné en régularité, c'est indéniable. Donc c'est assez impressionnant de sa part. Keys en face, qui aura rien à perdre, même si voilà, elle est américaine. Il y a le Arthurage qui sera probablement en fusion. Mais après, même si pour moi, les attentes sont plus sur Gauff, parce que je pense qu'elle est quand même un peu plus médiatisée que Keys. Mais il y aura quand même des petites attentes autour de Keys. Et on sait que souvent, en fin de tournoi, comme ça, ça peut coincer. Donc, à voir ce que ça donne. Un peu à la manière d'une Sloane Stephens, qui a du mal à conclure, même si elle a gagné l'US Open il y a quasiment 10 ans, je crois, 2012 ou 2013. C'est sûr que
Stephens,
ouais,
c'était en 2017 dans sa finale.
Ah non, c'est plus récent. Pardon.
C'est cette finale 100% américaine.
Ouais, elle revenait de blessure. Non, c'est vrai. Et Alors, c'est vrai que voilà, c'est assez impressionnant parce que c'est deux des plus grosses cogneuses du circuit. C'est vrai qu'elles ont des puissances de frappe qui sont dingues. Moi, j'avais vu une stat passée où Keys, en moyenne, ses coups droits, elle les frappe à 115-120 km/h. À mettre en perspective avec un Yannick Sinner qui frappe en moyenne à 130, alors que voilà, c'est le circuit masculin qui est censé frapper beaucoup plus fort. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et Zabalenka, pareil, puissance de frappe assez énorme. Mais voilà, comme tu l'as dit, Con, c'est vrai qu'elle défend un peu mieux, elle retourne mieux, Zabalenka. Donc j'aurais donné un avantage pour Zabalenka. Après 2 ou 3 sets, je ne sais pas. J'aurais peut-être eu tendance à dire 2 sets comme toi, parce que c'est vrai qu'elle a déjà gagné un majeur cette année. Elle commence à savoir ce que c'est que jouer une demi-finale en Grand Chelem, ce qui n'est pas forcément le cas de Madison Keys. Donc voilà, clairement avantage pour elle sur cette demi, je pense.
On est en phase, et on est en phase aussi dans les commentaires où c'est beaucoup moins discuté, beaucoup moins partagé que la première demi-finale qui est beaucoup plus indécise forcément. On est tous sur Sabalenka qui assume son statut et qui passe assez facilement par rapport à ce qu'elle montre depuis le début du tournoi et surtout par rapport au fait qu'elle propose plus d'armes que Madison Keys. Donc voilà pour les dames, une première demi un petit peu incertaine, où on ne sait pas trop, ça risque d'être une très belle affiche, et une seconde où on voit vraiment l'avantage pour Sabalenka. On va pouvoir passer chez les messieurs avec peut-être la première demi-finale, on ne sait pas au niveau de la programmation, logiquement, vu qu'ils ont eu un jour de récupération supplémentaire, ça devrait être eux, mais il y a Ben Shelton dans l'équation qui est américain, et peut-être que les Américains veulent le mettre en night session, donc on verra ce qu'il en est. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu voyais Shelton faire un tel parcours, lui qui depuis son quart de finale à l'Open d'Australie n'a pas été capable d'enchaîner 2 victoires consécutives, et ça semblait très très compliqué pour lui, d'autant plus que là on voit qu'il n'a pas encore totalement structuré son jeu, il marche à la grinta avec cet état d'esprit de j'ai rien à perdre, je me fais plaisir, je prends du kiff avec le public, je joue chez moi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, un peu de cette quinzaine de l'Américain?
Bah, il est impressionnant parce que, alors, c'est sûr que du coup, il avait très peu de pression sur ses épaules. Au contraire, justement, d'un Francis Tiafoe, sur lequel on reviendra peut-être rapidement par la suite, mais il est arrivé sans pression. Comme tu dis, voilà, il n'a pas réussi à enchaîner 2 victoires consécutives depuis l'US. Il n'a pas donné beaucoup de garanties, je trouve, après à l'Open d'Australie. Il a donné très peu de garanties depuis l'Open d'Australie. J'ai envie de dire, à Cincinnati, bon, il fait un retour un peu timide, où il gagne assez peu de matchs. Et puis là, il revient comme carrément en force. J'arrive pas trop à expliquer comment, étant donné que, il n'a pas forcément fait une super tournée américaine. Mais comme tu dis, voilà, il marche à la grinta, service énorme qui rappelle un peu celui d'un Pete Sampras d'une certaine manière. D'ailleurs, il en joue un peu hein, quand il fait ses services et qu'il regarde le radar après. C'est vrai que c'est assez c'est assez marrant. Moi je le trouve très solide au service. Après, il a un jeu assez stéréotypé à l'américaine, je trouve. Gros service, gros coup droit, revers plutôt solide. Il gagnerait à varier parce que je pense qu'il a physiquement, il est très solide et il a des gros atouts. Il est
très athlétique. Hein.
Il dégage une vraie puissance naturelle, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Après, bon, sur Djokovic, pas de suspense, hein, il va se prendre 3 petits sets, je pense.
Ouais, bah c'est Shelton déjà. Enfin, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il est là en demi-finale. C'est un gros serveur, mais tous ses matchs sont quand même relativement décousus, je trouve, où il perd quand même pas mal de fois son service. Il se prend un 6-1 en 24 minutes contre Kachin au premier tour avant de dérouler. Hein. Mais quand même, pour un gros serveur, tu te prends 6-1 d'entrée comme ça, c'est compliqué. Après, contre Tommy Paul, il n'est pas loin de se faire mener 4-0 dans le premier set. Il va revenir. Il peut gagner en 3 sets. Je crois qu'il y a 4-1 ou enfin 3-1 dans le troisième set. Et il va plus mettre aucun jeu avant de dérouler dans le quatrième. Contre Francis Tiafoe, il y a ce troisième set où il y a 3 ou 4 breaks consécutifs. Donc c'est vrai que pour un gros serveur, c'est encore un peu brouillon, ça demande un peu de construction. Par contre, il a vraiment cette énergie positive, cette fraîcheur qui fait plaisir. Il rappelle un Shapovalov quand il arrive en 2017 au Canada, là où il sort Nadal. C'est exactement pareil. Enfin, je trouve, je ne souhaite pas la même carrière par la suite que Shapovalov, hein, parce que là, c'est compliqué en ce moment. Mais on retrouve un peu des similitudes, notamment. Ce point connu qu'on a pu voir, cette balle de 7 qui sauve là, avec ce retour gagnant où il se décale et il tape avec son coup droit. Voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. C'est clair que c'est un vent de fraîcheur. On espère que c'est un tube qui se prolongera un peu plus longtemps que celui de Denis Shapovalov. Mais c'est clair que voilà, pour revenir face à ce match contre Djokovic, ça s'annonce compliqué. Djokovic, quelle est l'impression qu'il te laisse, toi, sur cette quinzaine?
Bah, j'ai envie de te dire, hormis son match contre Djere, je l'ai trouvé implacable, clairement. Il sort tous ses adversaires en 3-7. Moi, après, c'est vrai qu'il a eu un tableau extrêmement dégagé, quoi, à part le quart contre Fritz, où il lui met 3 petits sets, c'est vraiment violent. Enfin, 3 petits sets à un top 10. Faut se rendre compte quand même de la performance du mec. Il va avoir 37 ans l'année prochaine, physiquement, c'est quand même assez dingue. Surtout que ce qu'ils ont joué hier, je crois. Surtout que. Non, avant-hier. Non, hier.
C'était avant-hier,
ouais. Et enfin voilà, ils étaient quoi, 70-75% d'humidité, 25-30 degrés. Et le mec, voilà, il te met 3 petits sets à Fritz. Bon, après, honnêtement, on sentait que sur la fin, valait mieux pas qu'il y ait un quatrième set, parce que voilà, on sentait que Djoko était un peu moins frais qu'au début. Mais voilà, au début,
c'était une purge.
625 minutes.
C'était n'importe quoi. Fritz, vraiment, voilà, encore une fois, par rapport à ce top 10 et ce genre de joueurs, ce plafond qu'ils ont. Ils sont à des années-lumière de pouvoir les concurrencer. Hein. Djokovic, voilà, il y a eu Djere qui est rentré, pour le coup, lui, voilà, 38e mondial, qui est rentré avec la bonne attitude, je trouve, sur le court, qui a tenté la bonne tactique, qui a essayé de le prendre du fond, côté revers, relancer bien. Et après, Djokovic s'est mis en mode mur et il lui a dit, c'est à toi d'aller chercher ce match. Et c'est là que Djere a commencé à craquer, notamment côté coup droit. Mais contre Fritz, non, c'est pas possible de faire un match comme ça en quart de finale. En plus, voilà, Djokovic a fait le strict minimum. Depuis ce match contre Djere, il assure. Il joue pas excellemment bien, je trouve, contre Boyo et contre Fritz, mais il fait le taf. C'est pas des très grands matchs, mais c'est suffisant. Je rebondis sur ce que dit Anna, parce que c'est vrai que en double mixte, Shelton, voilà, je sais pas si c'était légèrement blessé, mais il s'est touché au niveau, je sais plus, c'était au niveau du dos ou quoi, pour attraper un lob à un moment. Donc à voir si ça pèse dans la balance ou non dans ce match. Mais c'est vrai que Djokovic, voilà, plutôt serein. Hormis Djere, il n'a pas relativement été testé. Et si on revient un peu sur cette affiche, comme beaucoup le disent en commentaire, c'est comme le dit Djokovic, voilà, les pauses toilettes pour se remobiliser. Comme beaucoup le disent en commentaire, c'est la première confrontation entre les deux. Est-ce que tu penses qu'il y aura un réel temps d'adaptation pour l'un comme pour l'autre et que ça peut créer la surprise sur un set, ou est-ce que tu vois vraiment Novak Djokovic verrouiller cette rencontre?
Ah, je pense que Djokovic, il va lui marcher dessus. Hein. Je pense que c'est break premier jeu et puis et après plus de suspense. Non, le truc c'est que ok, il peut y avoir ce petit vent de fraîcheur où voilà, Djoko, c'est vrai qu'il a jamais joué Shelton. Comme tu dis, c'est le petit nouveau sur le circuit. Faut le découvrir. Un peu comme Brooksby il y a un an ou deux, où voilà, on découvrait son jeu un peu bizarre et on se disait qu'est-ce que c'est que ce mec avec ses frappes, il frappe à 90 à l'heure. Enfin, il y avait rien dans son coup droit et il y avait quand même l'effet de surprise où il a gagné quelques matchs. Mais non, disons qu'en fait, je trouve que Shelton a un style de jeu qui peut pas déranger Djokovic. Pour moi, Djokovic, en fait, ce qu'il faut, c'est pour le battre, c'est lui rentrer dedans, mais faire assez peu de fautes, un peu comme Alcaraz. Ou ce qu'avait fait Ruud un tout petit peu au début de sa finale à Roland-Garros cette année, que j'avais trouvé très intéressant, c'est qu'il avait un peu ralenti côté coup droit, mais il bombait énormément ses frappes, il faisait courir Djoko, et on sentait qu'il n'était pas forcément à l'aise avec ça. Parce qu'en fait, en gros, c'était, il donnait les clés à Djokovic en mode attaque-moi. Et Djoko, on sait qu'il est meilleur contreur qu'attaquant. Donc ça, c'est une stratégie pour moi adoptée. Bon, Shelton, il adoptera clairement pas ça. Lui, je pense qu'il va essayer de lui rentrer dedans, de passer un maximum de premières. Alors, malheureusement, il ne monte pas beaucoup au filet, ça, c'est le problème.
Je trouve qu'il joue quand même pas mal au filet, enfin qu'il essaie d'y aller. Il y a des joueurs, tu vois.
Bon, il est à droit, mais il pourrait monter plus. Il pourrait monter plus, tu vois. Je pense justement, comme tu dis, il a une bonne main, mais voilà, il pourrait surprendre un peu plus. C'est vrai que je trouve qu'il ne l'utilise pas encore assez. Mais après, il est tout jeune, hein. il va apprendre, il va découvrir ce que c'est que ce niveau-là.
C'est clair.
Parce que c'est vrai que finalement, comme tu disais, vu qu'il a fait seulement un quart à l'Open d'Australie, il n'a pas encore l'expérience de ses grands rendez-vous. Voilà, il doit encore apprendre et puis il se forgera sa propre expérience. Mais pour moi, voilà, je vois un 3 petits sets Djokovic. plus il a eu deux jours de repos, donc je pense qu'il sera...
Par rapport à Shelton, ce qu'il pourrait tenter, c'est de s'inspirer un petit peu de ce que fait Jiří Veselý, qui est invaincu contre Novak Djokovic, même si c'est dans des contextes particuliers. Monte Carlo 2016, voilà, Djokovic venait faire le Sunshine Double, Dubaï 2022, Djokovic revenait à la compétition, ok. Mais je trouve qu'il avait mis en place des tactiques assez intéressantes, notamment au service, où, du coup, côté égalité, à l'inverse de beaucoup de gauchers, il allait plutôt sur le côté coup droit de Djokovic, alors qu'on sait qu'ils sont plus côté égalité, vont plus aller au T. Donc ça surprenait un petit peu Djokovic, il variait sur sa seconde, et côté avantage, moi, il faisait le classique extérieur bien connu des gauchers, et surtout Jiří Veselý, il était la plupart du temps les deux pieds dans le terrain, où il agressait en permanence Novak Djokovic pour dominer la filière courte. À voir si Shelton est capable de faire ça sur un set, hein, parce que bon, de faire sur 3 sets, c'est très très compliqué derrière de finir au filet. Et comme beaucoup l'ont dit, c'est quelqu'un qui aime entre guillemets se regarder par rapport à ses coups spectaculaires, ses services, ses aces, la vitesse. À voir s'il arrive à trouver le bon dosage, parce que voilà, il va peut-être faire 3 hot shots, c'est cool, tout le monde va l'applaudir. Mais derrière, si tu tentes 40 fois et que tu n'en fais que 3, ça sert à rien, ton ratio il est dégueulasse. Donc, à voir s'il arrive à trouver le bon équilibre, à jauger, à se dire, OK, là, il faut que j'agresse, mais il ne faut pas que j'en fasse trop, parce que je pense que ça va plus le desservir qu'autre chose. Et OK, il y aura peut-être le plus beau point du match, mais si c'est pour perdre 6-3, 6-1, 6-2, c'est bien beau d'avoir fait le plus beau point du match, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, à voir comment il arrive à canaliser cette fougue, parce que c'est encore en construction, c'est un peu brouillon dans son jeu. Mais je pense qu'il peut prendre un set. Voilà, qui peut prendre un set par rapport à l'effet de surprise, être porté un peu par ce public, par cette grinta. Bien sûr, je ne dois pas s'imposer. Par rapport à Taylor Fritz, qui lui, il avait déjà perdu le match dans les vestiaires et c'était catastrophique ce qu'il a fait. Je me dis que là, il peut peut-être le déboussoler en tentant des petits coups de Trafalgar par-ci par-là avec ses variations, ses services volés, ses attaques à la relance. Surtout que Djokovic, qui va être à surveiller. Et tu me diras ton avis sur ça, mais je trouve que depuis sa finale à Wimbledon, il a vraiment perdu en termes de pourcentage de première balle. C'est très peu fabriqué, mais il tourne à 55-60%. Il a vraiment diminué dans ce compartiment de jeu-là. Donc, à voir si Shelton, à la relance, on l'a vu, essayer de mettre la pression, tenir sa ligne, agresser les secondes balles, s'il arrive à lui mettre un petit peu le doute, et on ne sait pas, peut-être, voilà, s'il arrive à le breaker une fois, si Shelton, derrière, il ne fait pas n'importe quoi, il tient son service, pourquoi pas l'emmener sur un set comme ça et le prendre un set au Joker. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, je suis totalement en phase avec toi. Et là où je trouve que c'est le plus criant, surtout, c'est son lancer de balle. Je trouve beaucoup plus lisible qu'avant. Enfin, tu vois, quand il sert côté égalité extérieur, il décale vraiment sa balle à droite. Donc, j'imagine que à ce niveau-là, les mecs, c'est les Formule 1, ils connaissent un peu les joueurs par cœur. Mais je trouve que voilà, il a un service qui est quand même plus lisible qu'avant. Avant, il avait un lancer de balle qui rappelait celui d'un Federer identique, quelle que soit la zone où il frappait la balle. Là, je le trouve beaucoup moins en confiance avec ce coup, comme si voilà, il passe beaucoup moins de première. En seconde, je le trouve fébrile, même si très souvent dans les moments importants, même quand il est mené, il peut te lâcher des secondes à quasiment 200, parce que voilà, c'est Djokovic, quoi. Mais c'est sûr qu'au service, Shelton, il a une carte à jouer. Comme tu dis, c'est vrai qu'il a la chance d'être gaucher. Ça, c'est un atout quand même à son arc. Et on sait qu'il a perdu quelques matchs contre un certain gaucher. Donc
ouais, si on enlève ces matchs, il a 90% de victoires contre des gauchers, Djokovic quasiment. Voilà. Donc, c'est des joueurs qui maîtrisent bien. Ils maîtrisent encore mieux les grands serveurs avec sa qualité de relance. Où on parle beaucoup de l'adaptation que Djokovic va avoir sur les services de Shelton. Mais l'inverse est totalement vrai par rapport à l'adaptation que Shelton va avoir face à un joueur qui lui propose vraiment quelque chose à la relance, contrairement à Tiafoe, où Tiafoe, c'est seulement 38% de victoire contre des joueurs qui font 1m93 ou plus. On sait que c'est l'une de ses grandes lacunes, et pourtant, il a réussi à le breaker quand même 4 fois. Donc là, Djokovic, les retours dans les pattes, après, avec la préparation très ample de Ben Shelton, ça peut être très compliqué, et il peut se faire assez rapidement asphyxier dans l'échange.
Oui, totalement. Ça reste une affiche quand même intéressante. Voilà, on est aux États-Unis, comme tu dis, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, voilà, Djokovic, il a tellement la maîtrise de ces événements, il a une telle expérience derrière lui que voilà, je le vois pas flancher. Il a connu à peu près tout dans sa carrière. Je pense que mentalement, il est peut-être au pic, à son pic là. Donc, je le vois pas se faire manger par la foule new-yorkaise en fusion là, mais. Mais bon, ça reste quand même une affiche à voir. Ça, c'est un match à voir, clairement.
C'est clair. Et surtout cette fraîcheur, ça fait du bien. Ça égaye un petit peu cette US Open. Donc ça, c'est très, très cool. On est plus de 100 sur le live. Un grand merci à tous. Et comme tu le dis, Anna, les pouces, l'abonnement, comme d'habitude, c'est ce qui nous permet d'avancer, de progresser. Donc, on compte sur vous pour exploser les compteurs sur ça. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec tous les talkers, les fidèles qu'on peut retrouver dans le chat. Donc là, on est globalement assez en phase. La question, comme quelqu'un l'a dit, c'est de savoir plutôt si Shelton va réussir à prendre un set ou non. Il peut. Après, bien sûr, prendre 3 sets à Djokovic. Au vu du profil de Ben Shelton, c'est mission impossible. Prendre un set, pourquoi pas, mais il faudra qu'il arrive à proposer un peu plus de construction et surtout une performance plus avec moins de haut et de bas, mais plus dans la moyenne, plus linéaire pour justement inquiéter Djokovic et derrière potentiellement conserver son avantage.
Ouais.
On va passer à l'autre affiche ou la preview. Justement, je vous invite à aller la voir après le live. Je l'ai sorti juste avant ce live. Alcaraz contre Medvedev. Donc, c'est l'Espagnol qui mène dans les face-à-face, surtout qu'il en a remporté deux cette saison. Et la seule victoire de Medvedev, c'était à Wimbledon quand Carlos n'était pas encore Alcaraz. Maintenant, c'est un match-up très, 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 très compliqué pour le Russe. Il n'a pas mis le moindre set cette saison contre l'Espagnol. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche, déjà avant qu'on revienne sur les deux joueurs? Parce que on sait que le match est favorable pour le Russe. Mais enfin, tacticien, et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo preview, je me dis, c'est pas possible, le gars, il peut pas à chaque fois prendre trois petits sets contre Alcaraz, même si le match lui est pas favorable. Enfin, c'est un joueur d'échecs. On parle pas de Fritz, d'André Rublev, là, des joueurs boum-boum. C'est obligé qu'à un moment, il va arriver sur le court avec des solutions aux problèmes que lui pose Alcaraz. Je dis pas qu'il va gagner, mais je dis que je pense qu'il peut au moins lui prendre un set pour essayer de tenter des nouvelles choses par rapport à ce qui n'a pas fonctionné à Indian Wells et Wimbledon. Qu'est-ce que tu en penses dans les grandes lignes par rapport à ce face-à-face avant qu'on rentre un petit peu dans le Alcaraz et dans le Medvedev?
Ouais, c'est ça qui est assez contradictoire chez Medvedev, c'est que je trouve qu'il y a son dernier match sur Alcaraz. Bon, voilà, Alcaraz, il livre deux masterclass à Indian Wells et à Wimbledon, mais on sent que Daniil, il est un peu résigné, il est sans solution, alors que comme tu dis, c'est un joueur avec un QI tennis assez incroyable. Mais c'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'en face de lui, il a un joueur qui a un QI tennis encore plus élevé que le sien. Pour moi, il a un jeu où il n'a pas la solution, même s'il arrive à glisser des petits amortis en plus. Vaut mieux pas qu'il slice, parce que sinon, ça va terminer dans le filet ou dans les bâches. Mais s'il arrive à glisser une petite amortie par-ci, par-là, ça peut peut-être déranger un peu Alcaraz. Mais il ne faut surtout pas qu'il le joue en cadence. Parce que l'autre, voilà, il va se régaler, il va lui lâcher des parpaings en coup droit, ça peut être un peu gênant, je pense. Je pense que tactiquement, il faudrait qu'il se rapproche un peu de sa ligne quand même pour essayer de perturber un peu Alcaraz. Parce qu'en se mettant à 4 mètres derrière, bah, l'autre, il se régale, voilà, il ouvre les angles, il lâche une amortie, et puis le match se résume plus ou moins à ça, quoi. Mais voilà, enfin, pour moi, ça va faire encore 3 petits sets. Puis il y a des arguments supplémentaires à ça. Alcaraz, il n'a pas perdu un set, donc il est super frais. Dani, il a lâché un petit set par-ci, par-là. Il n'a pas rassuré physiquement.
Il a lâché juste un set contre Evans au troisième tour, l'Espagnol.
Ah, exactement.
Et Dani, lui, a lâché un set contre O'Connell et contre Dominique.
Ouais, c'est ça. Ouais, pardon. Mais voilà. Mais à mettre en perspective, parce qu'Evans avait fait un match assez exceptionnel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu jouer à ce niveau-là. Et voilà, en parallèle, Daniil, alors ok, Domineur, il est très solide, il fait pas de faute, mais il fait pas de coup gagnant non plus. Il perd un set. O'Connell, pareil, joue un peu à l'australienne, mais il perd un set qu'il doit pas perdre. Il met 2-2 dans les premiers sets, donc un peu bizarre. Bon, après, voilà, on se dit que tout est possible. On est en demi-finale, les deux ont gagné 5 matchs chacun. Il commence à être rodé. Daniil, il a gagné un US Open aussi.
Donc, surtout voilà, entre les deux derniers lauréats de l'US Open, c'est une belle affiche aussi.
Exactement. Donc, faut quand même considérer Daniil. Mais pour moi, contre Alcaraz, il a pas les armes. Et c'est ça qui est frustrant. Enfin, c'est un peu ça, c'est l'aléa du tirage au sort. Mais un Daniil contre Djoko en demi, j'aurais bien aimé voir ça, par contre.
C'est clair. Mais ouais, pour ceux qui se demandent, bon, je pense que vous l'avez en tête, mais pourquoi Alcaraz est un mauvais match-up pour Medvedev? Qu'est-ce qui gêne Alcaraz? Et certains l'ont dit dans les commentaires, des joueurs très puissants des deux côtés, comme des Nicolas Jarry, Struff, Sinner, qui l'ont embêté cette saison. Ou après, il y a le profil Tommy Paul, qui est un peu à part, qui est un joueur très athlétique, qui fait que il peut très bien couvrir le terrain, notamment sur les amortis de son adversaire. Il n'a pas de grande faiblesse, que ce soit côté coup droit, côté revers. Donc, il arrive vraiment à donner le change à Alcaraz. Et là, en fait, Medvedev, c'est tout l'inverse. On a un joueur qui s'appuie sur le rythme de son adversaire et que ce n'est pas lui qui va prendre l'initiative. Ce n'est pas lui qui va agresser ses adversaires. Lui, il s'appuie, il contre, il remet. Mais du coup, il ne propose pas forcément de jeu pour bousculer un Carlos Alcaraz. Après, on rajoute à ça sa position lointaine à la relance, comme tu l'as rappelé, Louis, qui fait que Alcaraz, derrière, il a plein d'options derrière son service. C'est génial pour lui. Il fait un service extérieur. Soit il fait la volée courte, soit il fait l'amorti. Ou après, même avec son service kické, où il va encore plus faire reculer son adversaire, là, il peut même aller sur son côté coup droit dans les grands jours. Donc, 3-4 options derrière son service, c'est quand même énorme pour mettre un point. Après, on a la grosse faiblesse de Medvedev qui est son coup droit, beaucoup trop passif. Et ça, Alcaraz, il le sait, il insiste dans cette diagonale-là. Et on a des schémas un petit peu classiques, vous surveillerez ça sur ce match, c'est ce qu'on a pu voir à Wimbledon, c'est que Medvedev va essayer de dominer cette diagonale côté revers, c'est son point fort. Sauf que s'il n'arrive pas à trouver suffisamment de profondeur pour empêcher, verrouiller et empêcher Alcaraz, notamment de mettre en place côté coup droit, Alcaraz, lui, dès la moindre brèche, il va attaquer longue ligne avec son revers pour aller sur le coup droit de Medvedev. Donc là, Medvedev, il est dans la merde, hein, qu'on se le dise, parce qu'il va cafouiller avec son coup droit. Il a deux options. Soit il repart dans la diagonale coup droit, et là, bam, Alcaraz, il se régale. Hein. On sait que le coup droit, c'est son point fort, et avec sa puissance du fond, il fait la différence. Soit il va essayer d'attaquer longue ligne. Sauf que le coup droit de Medvedev, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il va attaquer longue ligne? Ça va être une balle un petit peu neutre, un petit peu courte. Et là, Alcaraz, c'est royal pour lui. Revers, bam, court croisé, coup gagnant. C'est un schéma qu'on a énormément vu à Indian Wells, énormément au Wimbledon et qui pose problème aux Russes. Donc, à lui de gérer cette diagonale, d'essayer d'être le plus tranchant possible dans la diagonale revers. D'autres l'ont mentionné dans les commentaires. C'est la qualité de service de Medvedev qui n'a jamais été aussi mauvaise depuis des années, depuis 2018. Où il passe très peu de premières balles. Derrière, sur ses secondes, il fait énormément de double fautes. On peut même parler de yips hein, sur cette seconde balle, parce que dans les moments chauds, il n'y arrive plus. Quoi. Il fait une double faute. On sent que la confiance n'est plus là. Et ça, Alcaraz va en profiter sur ses secondes. Il avait martyrisé à Wimbledon 30% de points gagnés sur seconde balle pour Medvedev, et notamment en allant sur le coup droit de son adversaire. Donc là, c'est un peu les schémas de jeu où on sait que c'est un match très compliqué. Mais c'est un tacticien, Medvedev. Je me dis qu'il va tenter, il ne va pas y arriver forcément, mais qu'il va tenter des choses. En tout cas, j'espère pour lui. Sinon, ça va faire encore 3-7 à 0. Et tu parlais de la position à la relance, qu'il faudrait qu'il s'avance un peu plus. Je ne sais pas si c'est forcément la bonne chose. Oui, ça va moins l'exposer au service volé, mais est-ce qu'il est plus à l'aise pour relancer aussi près, alors, avec son attitude des deux côtés?
Alors, selon moi, en fait, ce qu'il doit faire, c'est, pour perturber un maximum Alcaraz, c'est faire un peu ce qu'on appelle des avant-arrière, quoi. C'est sur un service, il va retourner 1m50 derrière, et sur un autre 4m derrière. Comme ça, Alcaraz, il arrivera pas trop à se régler, il va se perdre un peu. Je pense que ça peut être une tactique. Non, honnêtement, moi, personnellement, je pense que le seul moyen pour Medvedev de battre Alcaraz, c'est de faire ce qu'il avait fait en 2019 quand il bat Djoko à Cincinnati, quand il servait des secondes à 200 et qu'il faisait quasiment pas de double faute. Non, mais c'était ça. Il avait une confiance inébranlable au service. Le mec, il passait 70-75% de première. Les 25% restants de seconde, c'était des premières, en fait. Donc, Djoko complètement perturbé. Et Alcaraz, il retourne bien, mais ça peut lui arriver quand même de faire des fautes bêtes de temps en temps. Donc, voilà, si Daniil, il a un mauvais pourcentage de première, il va se faire marcher dessus, quoi.
C'est ça, clair. Ça peut être humiliant. C'est clair. Pour moi, les clés, et je vous inviterai à aller voir la vidéo où on parle un peu plus, c'est vraiment, on passe un maximum de première balle, forcément, pour ne pas s'exposer sur seconde balle, arriver à dominer cette diagonale revers, et surtout, ce que peut faire Zverev, notamment ce qu'il avait fait à Roland-Garros 2022 contre Alcaraz, vraiment jouer long, profond sur ce côté revers et ensuite attaquer longue ligne avec son revers sur le coup droit d'Alcaraz, où on sait qu'il peut être sujet à un petit peu plus de fautes sur ses coups droits en bout de course. Ça peut être une solution, et après après l'emmener dans des longs rallyes, mais pas trop s'exposer côté coup droit, être agressif, c'est ça qui va aussi être un facteur clé. Cette agressivité côté coup droit, s'il se monte passif, il va se faire allumer balle courte, c'est fini pour lui. Donc à voir s'il arrive à apporter 2-3 solutions. Je pense qu'avec Gilles Servara, il va bosser sur ça. Logiquement, il devrait jouer en deuxième rotation. Bon, c'est pas sûr encore une fois par rapport à la programmation, Shelton qui est américain, donc il n'aura pas les conditions extrêmes qu'il a pu avoir, et c'est pourquoi je pense qu'il peut prendre un set. Je le vois pas gagner, mais je pense qu'il peut plus emmerder Alcaraz qu'on croit par rapport à leur précédent face-à-face. Et toi, Louis, t'es plus sur un 3-0 pour Alcaraz?
Ah, 3-0 Alcaraz, ben. Bah, peut-être un, ça reste Daniil, donc peut-être un 7-5 au premier set, temps de se roder, mais non, moi je vois 7-5 et derrière limite un 3-2, quoi. Ça peut être assez violent. Et les conditions physiques, j'ai envie de dire qu'elles seront limite favorables à Alcaraz parce que il va faire chaud et humide. Medvedev s'en est plein. Bon, après, il aime bien faire du cinoche, le Daniil, on le connaît, mais non, Alcaraz, il adore ses conditions. Physiquement, il est au top, il a 20 ans, enfin, aucune alerte là-dessus, quoi.
Et du coup, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'était un petit débat où ça a beaucoup fait réagir sur Twitter par rapport à cette chaleur, à ce match voilà, avec beaucoup d'humidité contre André Rublev, qui n'a pas été un très très beau match, 14 breaks en tout. Quel est ton avis, toi, sur ça? Il y a deux écoles, donc il y a ceux qui se sont offusqués sur Twitter de dire que ce n'est pas possible de faire jouer des joueurs dans ces conditions-là. Et il y avait un raisonnement aussi intéressant de Benoît Mélin dans Sans filet aujourd'hui, qui expliquait que ça a toujours été comme ça à New York, c'est pas en 2023 qu'il s'est mis à faire chaud tout d'un coup en quart de finale, que c'est depuis des années que le climat est comme ça, que les joueurs s'y accommodent, parce que ça fait voilà, c'est comme ça depuis toujours presque, et que au final un caprice n'a pas trop lieu d'être. Quelle est ta position, et vous, quelle est votre position sur ça dans les commentaires?
C'est dur à dire parce que déjà je suis pas professionnel, je joue pas dans ces conditions, donc je sais pas trop quel ressenti ça donne. Mais non, je rejoins ta théorie, celle de Benoît Mélin sur le côté où, voilà, ça a toujours été comme ça. Alors ok, c'est vrai qu'à l'Open d'Australie, à partir d'une certaine chaleur, ils arrêtent le jeu. Bon, après en Australie, le thermomètre peut monter à 40 degrés. Là on n'a pas dépassé 35, ce qui est déjà très élevé, mais il a pas fait si humide que ça. Apparemment, il a fait 50% d'humidité, de ce que j'ai entendu. Donc ça, c'est à mettre aussi en perspective. Qu'il faisait plutôt sec, on va dire. Je sais pas pourquoi il se réveille maintenant. C'est assez curieux. Peut-être que voilà, Daniil. J'ai pas les stats exactes du match sur le nombre de rallyes moyens, mais peut-être qu'ils ont joué plus de rallyes qu'en temps normal, ce qui fait qu'ils étaient. Ils se sont retrouvés dans cet état de fatigue là, mais non, moi je trouve ça assez curieux de se plaindre de ça, surtout quand on sait que Daniil, c'est quand même son fond de jeu, c'est d'être assez physique, donc bizarre que ce soit le premier à se plaindre de ça. Moi je me rangerais plutôt du côté de ton côté, Benoît Mélin, sur c'est pas nouveau, ça date pas d'hier, quoi.
C'est ça, c'est partagé. Je comprends les conditions, et je sais pas si vous avez déjà joué sous l'humidité, mais pour le coup, j'étais il y a quelques semaines encore au Japon. Il y a un taux d'humidité très fort et c'est extrêmement chaud. Donc, du coup, dès qu'on sort, on est rincé. Il faut presque qu'on aille reprendre une douche. Les affaires sont trempées. Et c'est surtout par rapport à la respiration pour récupérer des différents efforts, notamment dans les longs rallyes, comme tu l'as mentionné, que c'est beaucoup plus compliqué avec ces conditions humides. Et c'est ce qui peut poser des problèmes et aussi créer des surprises. On se rappelle de cette victoire de Milman contre Roger Federer il y a quelques années à l'US Open. Les conditions s'annoncent encore pires vendredi, en termes d'humidité et de chaleur, à voir comment ça va être géré, parce que ça va être, il y aura un match en session de jour et un match en session de nuit. On connaîtra la programmation. Mais c'est vrai que je pense que ça a souvent impacté les quinzaines à l'US Open, ces conditions extrêmes. Et on peut facilement citer différents matchs où il y a eu soit des malaises, soit des joueurs qui se sont fait surprendre à cause de l'humidité. Et c'est vrai qu'hier, c'était très, très dur pour les deux joueurs. Et ça n'a pas donné un très, très beau combat avec énormément de break des breaks. Et en plus, Rublev qui a fait la course en tête dans chaque set pour finalement s'incliner. Le night session, ouais, c'est clair que c'est empire en night session. Toujours quelque chose à dire. C'est ça. Mais ça me rappelle un peu l'US Open 2019. Bon, ce n'est pas le même run avant où il avait fait finale au Canada et titre à Cincinnati, notamment sur contre Djokovic, etc. Mais qu'il a toujours quelque chose contre le public. En plus, en 2019, il lâche des sets un peu par-ci, par-là. Je me rappelle contre Kopfer, qui va s'embrouiller à droite à gauche. Il avait ce niveau de concentration qui n'était pas très, très élevé, à l'inverse de 2021, où il perd juste un set contre Bocic. On le sentait beaucoup plus impliqué, presque en mission. Après, bon, il y a eu un peu la crispation de Djokovic en finale par rapport à cette histoire de Grand Chelem. Mais c'est vrai que je retrouve un peu cet état d'esprit de 2019 où la préparation, encore une fois, n'est pas la même. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses de cette attitude de Daniil.
Pour moi, c'est un showman. Il rappelle un peu Djoko sur ce point de vue-là. Voilà, il aime bien se faire remarquer, il aime bien montrer qu'il est là. C'est vrai que là, c'est une manière un peu différente de le faire parce qu'en général, on sait que il aime bien jouer avec le public ou lâcher les énormes punchlines dont il est assez spécialiste. Mais non, c'est vrai que je sais pas trop ce qui lui a pris. Je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'actuellement il est sur un cruel manque de confiance. Je pense qu'il a pris un coup derrière la tête après Wim. Je pense que ça s'explique assez bien par sa défaite assez sèche contre Alcaraz où il a dû dire bah ok contre lui en fait j'ai pas la clé quoi. Et je pense qu'il a dû prendre un coup derrière la tête parce qu'il s'est dit Djoko de temps en temps j'arrive à le taper. Mais le Alcaraz, ça va être impossible. Et j'ai même peur pour lui, pour sa fin de saison, que ça soit encore pareil s'il se prend 3-7 demain sur Alcaraz. Quoi.
C'est clair. Ça va forcément jouer depuis sa défaite contre Seboy Will. Ouais, c'est clair, parce qu'à Wim, il bat seulement un top 35. Enfin, pour arriver en demi, c'est un petit peu trompeur. Et c'est vrai que ça a cassé ce momentum. Après, il a beaucoup joué, Medvedev. Plus de 50 matchs au compteur, forcément ça pèse aussi dans les jambes à un moment ou un autre. Donc voilà un petit peu nos avis. Donc on est partagé sur Mourovagov, d'accord sur Sabalenka Keys et globalement d'accord sur le reste. Hein. C'est plus la question de savoir s'ils vont prendre un set ou non, mais globalement on est en face sur une finale Djokovic-Alcaraz et que ni Medvedev ni Shelton vont empêcher les retrouvailles de ces deux joueurs pour notre plus grand bonheur, où ça promet une très très belle finale. Durant ces quelques minutes, si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. On a été assez complet sur l'ensemble de ces affiches. Vous êtes d'accord par rapport à Medvedev, qu'il est trop loin de sa ligne, que le match-up est défavorable pour lui. Il a eu une belle réaction contre Dominor, c'est vrai. L'Australien joue vraiment le feu sur un set et demi avant de se ressaisir. Donc ça, il peut capitaliser sur ça. Après, pour son match contre Rublev, est à oublier, je pense. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler si c'est vraiment le cas. Ça, c'est indécis. C'est vrai qu'en début de quinzaine, j'avais du mal à voir Alcaraz conserver son titre par rapport à tout ce contexte, toute cette pression. Mais il s'en est plutôt magnifiquement bien tiré, je trouve, en concédant qu'un seul set pour le moment. Donc, à voir ce que ça va donner s'il y a une finale entre les deux. Toi, avant le début du tournoi, quel était ton favori? C'était plutôt Alcaraz, Djokovic?
Djokovic, parce que voilà, comme tu dis, la défense du titre, c'est jamais facile. Surtout la défense de son premier grand chelem, ça l'est encore moins. Après, pendant le tournoi, Alcaraz, il a quand même dit que lui, il ressentait aucune pression du fait de défendre un titre. Ce qui est assez remarquable parce que on a quand même compris cette dernière année qu'il y avait, des points où je trouve qu'il doit gagner encore en expérience et sa jeunesse fait que il apprend tout le temps. Des exemples, il y en a plein, hein, mais on va dire que le plus évident, c'est sa demi contre Djoko, où il attendait ce match avec énormément d'attente et ça a fait flop, quoi. Mais non, on a l'impression qu'il apprend vachement vite de ses erreurs. Mais non, pour répondre à ta question, j'aurais dit Djokovic en avant-tournoi, mais légèrement au-dessus d'Alcaraz. Il n'y a pas de... d'écart monumental. Enfin, on le voit à la finale de Cincinnati où Alcaraz est finalement à un point de gagner.
J'étais impressionné, ouais. Je le voyais perdre plutôt facilement par rapport à toute l'énergie qu'il avait gaspillée en cours de route et son niveau qui n'était pas terrible. Il a vraiment su rehausser son niveau en finale contre Djokovic. C'est vraiment la marque des meilleurs. Et donc ça fait plaisir et ça promet une belle finale, en tout cas si les deux arrivent à ce stade de la compétition. On va surveiller ça de très très près. On a des beaux matchs qui arrivent. Mourovagov, je vous invite à aller le voir. Et les deux demi, messieurs, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais je pense que la fraîcheur de Ben Shelton fera du bien quoi qu'il arrive. Et peut-être, voilà, ce point d'interrogation, si Medvedev arrive à apporter des solutions à ce que lui propose Alcaraz. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite pour la compétitivité de ce match, que ça soit intéressant. Un grand merci à vous tous. Franchement, c'est du bonheur, c'est US Open. Il y a les deux previews où on rentre un petit peu plus en détail sur le Shelton Djokovic et sur le Alcaraz Medvedev qui sont sur la chaîne. Je vous invite à aller les voir après ce live. Comme d'habitude, le pouce bleu, c'est ultra important pour nous, pour le référencement, pour nous donner de la force. L'abonnement, bien sûr, le commentaire, derrière, bah, on se fait un plaisir de discuter avec vous. Et c'est toujours la régalade, voilà, de se rencontrer un peu sur le chat, de pouvoir répondre à vos différentes questions. Le prochain live, ça sera samedi, pour se projeter sur les finales et voir un petit peu ce qu'il en est, si on avait juste ou pas dans les pronostics. Merci à toi, Louis. Toujours sympa d'échanger avec un talker passionné comme tu l'es. Donc, vraiment beaucoup de valeur que tu apportes. Donc, ça, c'est vraiment top. Merci à tous. Merci. Passez une excellente soirée. Bon match. Encore quelques nuits à tenir avant qu'on puisse enfin se reposer un petit peu sur cette fin de saison. Ça va faire du bien de reprendre le rythme normal. Et nous, on se retrouve ce samedi en live. Demain, normalement, il y aura une preview de la finale féminine, qu'elle sera connue. Et je vous invite à aller voir les deux previews sur les deux demi chez les hommes. Nous, on se retrouve très, très vite. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao tout le monde.
Salut, bonne fin du US Open.